Alors ce matin, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de titre, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Noé, dans la Genèse, Genèse 6, verset 17, Genèse, c'est le premier livre de la Bible, le dernier étant l'Apocalypse. Est-ce que vous savez combien il y a de livres dans la Bible? Combien? 66. Il y a combien de livres de l'Ancien Testament? Alors, combien de livres? 39. Est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Et si ça peut vous aider, je connais un groupe qui s'appelle la ZAP et qui fait des chants où ils utilisent la parole de Dieu, ils reviennent sur les versets de la parole de Dieu et ça nous permet de les mémoriser. Et il y a, alors ça c'est un coup de pub, mais il y a dans ce CD de la ZAP, effectivement, ce chant où ils énumèrent, merci Bruno, tous les livres de la parole de Dieu en chansons. Et donc il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, donc ça fait 66, exactement. Genèse 6, 17 dit, c'est Dieu qui parle, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. » Waouh. Abraham, dans Genèse 12, 1, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Superbe promesse pour Abraham. Genèse 12, 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Nouvelle promesse de la part de Dieu à Abraham. Exode 33, 1, Dieu dit à Moïse ce qu'il avait dit à Abraham. « Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Josué 1, 2, « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Alors Noé, Genèse 6, 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne vais pas revenir en arrière. J'espère que vous vous souvenez de ce que Dieu a dit à Noé, qu'il allait envoyer le déluge. Et là, en fait, Noé exécuta ce que Dieu lui a dit. Plus de 100 ans après avoir prévenu Noé, Dieu envoya le déluge sur la terre. La parole de Dieu, qui est importante, où Dieu donne des promesses, et Dieu amène les promesses à son accomplissement. Alors là, on pourrait dire, mais c'est quand même pas une belle promesse de détruire la terre. Mais en tout cas, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Genèse 12, 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ce que Dieu avait demandé à Abraham de faire, Abraham l'a fait. Excusez-moi. La grande nation qui est sortie d'Abraham, nom qui a été changé par Dieu, pour ceux qui sont au courant, Abraham s'appelait Abraham et Dieu a changé son nom. Eh bien, c'est le peuple d'Israël, mais aussi nous, les croyants. Depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui et tous ceux qui viendront après nous, Abraham est le père de la foi. Mais je n'ai pas retrouvé, c'est pour ça qu'il y a un H, pour Hébreu, je crois que c'était dans Hébreu, mais je n'ai pas retrouvé le passage qui le dit. En tout cas, Abraham, c'est le père de la foi, nous dit la parole de Dieu. Dieu a donné le pays qu'il avait promis à Abraham, à la postérité d'Abraham, puisqu'il a changé son nom. Genèse 18, trois hommes rendent visite à Abraham. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Pour ceux qui connaissent un peu, en fait, quand l'ange, en tout cas l'homme, déclare ça, Sarah rit, parce qu'elle est âgée de plus de 90 ans, ou de 90 ans, et donc elle rit de ça. Et on pourrait dire, bah oui, moi aussi je rirais, si on venait de dire, je ne le dirais pas. Non, non, je ne me lâcherai pas, Bruno. Mais concrètement, si on disait à une femme aujourd'hui de 90 ans qu'elle va avoir un enfant, ben, je pense, même connaissant la parole de Dieu, que j'aurais des doutes, j'aurais de l'incrédulité. Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Tout à l'heure, il a été dit, rien n'est impossible à Dieu. Vous vous souvenez, c'était au début du culte. En fait, les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Plus de 700 ans plus tard, de 700 ans, pardon, plus tard. Luc nous relate au chapitre 1, 35, l'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Des promesses de la parole de Dieu, vous voyez que ça peut prendre du temps. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. J'aime beaucoup certains passages dans la parole de Dieu, peut-être plus que d'autres, je ne sais pas, mais tous. Jésus n'est pas venu pour certaines personnes. Il est venu pour tous les êtres humains. Et il est venu pour consoler tous les affligés. Et puis on retrouve cela dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Quand Jésus, après le temps qu'il a passé dans le désert, va au temple, on lui donne un livre, il le déroule et tombe sur ce passage-là où il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et vous pouvez regarder avec Ésaïe, il y a très peu de divergences. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors pourquoi tous ces versets, à votre avis ? Il n'y a personne qui a une petite réponse ? Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Oh, toi, t'as triché. « les promesses de Dieu, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors, soyons bien d'accord, je ne vous parle pas de prophétie. Je vous parle des promesses de la parole de Dieu. Je ne dis pas que les prophéties ne sont pas des promesses parfois de Dieu. Mais là, on est clairement sur les promesses de la parole de Dieu. La parole de Dieu seule restera. Il n'y a aucun iota qui sera enlevé de la parole de Dieu. Donc vous pouvez vous fier clairement à la parole de Dieu. Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute l'écriture, pas que les passages que vous aimez. Pour les hommes, pas le passage où il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Pas non plus pour les femmes, le passage qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour lui, pour elle. » pardon. Et en même temps, ça fait partie de la parole de Dieu, mais on ne va pas utiliser la parole de Dieu comme on a envie de l'utiliser, mais c'est important de prendre la parole de Dieu comme elle est, comme Dieu dit les choses. D'où l'importance, quand on lit la parole de Dieu, et je pense que vous avez déjà entendu des gens qui vous disaient « mais je lis la parole de Dieu, je ne comprends pas. » Ou « je lis la parole de Dieu, mais c'est difficile. » Mais c'est un peu normal. La parole de Dieu a été écrite par des hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous avez besoin que le Saint-Esprit vous révèle sa parole. Si vous révélez vous-même la parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible, mais j'ai mon interprétation de la parole de Dieu, ça souvent, ça pose des problèmes. Et dans nos vies et dans la vie des autres. Surtout dans la vie des autres. Parce que du coup, on est sûr et on dit, oui, mais la parole de Dieu dit ça, mais elle est ou hors contexte, ou elle n'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, on utilise la parole de Dieu un peu comme on veut. Là, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. La parole de Dieu est utile pour beaucoup de choses, pour conduire nos vies, si nous acceptons et que nous marchons dans ce que la parole de Dieu nous dit. Josué 23, 14 dit « Reconnaissez de tout votre cœur, il parle au peuple d'Israël, et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. » Vous imaginez ? Reconnaissez, donc ça veut dire que Josué a dû faire certainement l'état des lieux et dire, mais en fait, tout ce que Dieu a dit pour son peuple, il l'a accompli. Aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Toutes. Et j'aurais pu vous parler aussi de Actes 27-25, où quand Paul était dans le navire, qui était ballotté par les eaux, lors d'une tempête, il dit « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Alors, dans le texte, il n'est pas écrit si ça a été pendant la nuit ou la veille, etc. Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a dit à Paul, par l'intermédiaire d'un ange, que ce qu'il a dit, il l'a accompli. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et puis voilà, je vais prendre un peu le chapitre aux Hébreux qui dit « Et j'aurais pu vous parler de, et de, et de, et de. » Pour beaucoup, il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où on voit que ce que Dieu a dit, il l'a accompli. La parole de Dieu est remplie d'exemples qui nous ont été donnés pour nous encourager, qui nous ont été donnés comme témoignage. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Qu'est-ce qui caractérise ces personnages de la Bible quand même, dans ceux qu'on a vus, tels que Noé, tels qu'Abraham? Il y a trois choses. Il y a l'obéissance, il y a la confiance, et il y a la fidélité. Noé, s'il n'avait pas été fidèle à ce que Dieu lui avait dit, parce que quand même sa fidélité a duré une centaine d'années pour construire l'arche, il a obéi à Dieu, il avait confiance que ce que Dieu avait dit, il allait le faire, et lui a été fidèle dans ce à quoi Dieu l'a appelé. 2 Corinthiens 1, 18, 20, l'apôtre Paul dit ceci, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Car pour ce qui est des promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Les promesses de Dieu se retrouvent toutes en Jésus-Christ. Alors, si vous ouvrez la parole de Dieu, vous allez peut-être me sortir des choses. Oui, mais est-ce que tu penses que Jésus a accompli telle et telle chose? Jésus est la parole de Dieu. Donc, là-dessus, ce n'est pas moi qui le dis. Vous lisez dans 1 Jean, premier épître de Jean, premier chapitre, verset 14. Évangile de Jean, premier chapitre, au verset 14. Car la parole de Dieu a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qui est la parole de Dieu qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, si ce n'est Jésus? Alors, ce que vous avez pu voir, c'est, au travers de ce que je viens de vous partager, que Dieu parle et la chose arrive. Alors effectivement, parfois après un an, parfois dans la nuit ou la journée suivante, parfois après plus de 100 ans, parfois après plus de 400 ans, le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans et Dieu l'avait prédit. Il avait dit à Abraham que son peuple irait en Égypte et qu'il serait esclave pendant 400 ans. Et puis Dieu l'a fait sortir du pays. Alors, je n'ai pas la réponse de vous dire, mais pourquoi ça a duré 400 ans? Je n'en sais rien. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas d'essayer de comprendre toutes les choses, mais c'est d'accepter ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et puis donc, plus de 700 ans, parfois. Alors, si je vous ai donné tous ces versets, c'est quand même pour un but. Qu'est-ce que je dois retenir ce matin? Enfin, qu'est-ce que nous devons retenir ce matin? Waouh! Tout le monde dort ou... Avoir confiance en Dieu. Pardon? Ses promesses s'accomplissent toujours. Ses promesses ne s'accomplissent pas très souvent. Ses promesses s'accomplissent toujours. 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 Si vous n'êtes pas sûr, redites-le. Pas parce que vous allez faire la méthode Coué, mais parce que vous allez vous appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous disais, soyons bien d'accord, nous parlons de la parole de Dieu et des promesses de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas des prophéties, parce que parfois, malheureusement, il y a des prophéties qui ne se sont pas accomplies, parce qu'en fait, elles n'étaient pas justes. Parfois, elles ne se sont pas accomplies parce qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais parfois, elles ne se sont pas accomplies parce qu'elles n'étaient pas justes. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages, mais des prophètes, enfin des personnes qui avaient un ministère prophétique, ont dit à une personne, tu vas accoucher d'une fille. et elle s'est retrouvée avec un garçon, ou l'inverse. La prophétie n'est pas toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours. La parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Est-ce que vous avez personnellement une promesse de la parole de Dieu que vous pouvez partager aux autres? Vas-y Jean-François, je t'ai vu faire ça. D'accord. D'accord, mais ça, c'est une certitude que tu as. Mais là, je parlais plus d'une promesse de la parole de Dieu, c'est-à-dire un verset que vous avez lu dans la parole de Dieu, pour lequel c'est une promesse pour vous. Vous savez que cette parole... Oui, bon.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai cette certitude que quoi qu'il arrive, Jésus est à côté.
Voilà. On a cette certitude que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, c'est vrai que si on prend ce verset et qu'on le remet dans le contexte, c'est au moment, c'est par rapport à l'évangélisation. Mais clairement, c'est pas depuis que vous êtes chrétien que vous avez donné votre vie à Christ que Christ a commencé à s'occuper de vous. Avant que vous soyez né, Dieu vous connaissait déjà. Et Dieu prenait déjà soin de vous. Donc ça veut dire qu'il était bien là, à côté de vous. Une autre promesse que vous avez reçue de la parole de Dieu? Parce que là, ça encourage de se dire, mais en fait, quand quelqu'un commence à dire, ben, moi j'ai lu ça dans la parole de Dieu, et c'est une promesse pour moi, la personne qui est à côté, au début, elle va dire, ben, moi pas, une deuxième promesse, moi pas, une troisième, ah tiens, oui, celle-là, oui. Et c'est de se dire, mais je suis persuadé que vous avez reçu de la part de Dieu des promesses dans sa parole. Est-ce que vous en avez une autre? Ah, pas toujours le même. Alors, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est une promesse conditionnelle. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que ça vous est pas arrivé de dire, Seigneur, donne-moi ce que mon cœur désire et je ferai de toi mes délices? Oui, mais est-ce que ça vous est pas déjà arrivé dans votre vie de dire à Dieu, bah, donne-moi ce que mon cœur désire et je ferai de toi mes délices? Reprenons la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, c'est-à-dire, au commencement, le verset, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tu commences par faire de l'Éternel tes délices, et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. En sachant que, quand on commence à faire de l'Éternel nos délices, Dieu change notre cœur, et ce qu'on a sur notre cœur, parfois, change aussi. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est qu'il va accomplir le meilleur pour nous. Parfois, nous avons une certaine manière de voir, mais ce que Dieu a prévu, c'est le meilleur pour chacun de nous. Encore une autre promesse. Vas-y, Agnès. Alléluia. Vous avez entendu? Non. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pas que ceux qui ont le cœur brisé. Vous pouvez lire, il m'a envoyé. Et c'est vrai que souvent, ce passage-là, on le dit comme étant le passage que Jésus a accompli quand il a commencé son ministère. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que ça s'arrête à ça? Non. Il y en a qui disent non. Il y en a peut-être qui vont dire oui. Mais effectivement, ça ne s'arrête pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si cette parole était pour Jésus et que Jésus vit en vous, cette parole est valable encore aujourd'hui au travers de vous. La puissance de la parole de Dieu. Ne minimisons pas la parole de Dieu. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Tiens, comme c'est bizarre, ce matin, Bruno a amené à sortir de sa prison. Aux aveugles, le recouvrement de la vue physique et de la vue spirituelle. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Toutes ces promesses qui sont dans la parole de Dieu. C'est pour vous et c'est pour moi. Les promesses de la parole de Dieu peuvent être une réalité à partir du moment où nous nous accaparons de la parole de Dieu. Et quelqu'un disait, c'est extraordinaire, j'ai compris que quand je commence à déclarer la parole de Dieu sur des situations, sur ma vie, la chose ne se fait pas comme ça, mais je vois Dieu intervenir petit à petit, parce qu'en fait, je fais mienne la parole de Dieu. Je me l'approprie. Si tu es opprimé, Dieu veut te libérer. Est-ce que tu le crois ? Première question. Est-ce que tu as envie ? Deuxième question. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, j'étais dans une assemblée, pour ne pas la citer, qui était à Tourcoing. Et puis la personne qui avait apporté le message a dit, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais c'était un ancien cinéma. Et donc, tout n'était pas rangé. Et puis il dit, je demande à ce que la première rangée se retourne pour voir les personnes de la deuxième rangée. La troisième rangée, la même chose. Et donc, il y avait une rangée sur deux qui se retournait. Et donc, on se voyait face à face. Et il dit, maintenant, vous demandez si la personne veut bien que vous priez pour elle. J'avais en face de moi une personne qui avait besoin d'être guérie par Dieu, physiquement. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Et elle m'a dit non. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il y a des choses qui sont parfois, qui nous semblent tout à fait logiques, tout à fait normales. Mettez-vous un peu à la place de la personne qui était près de la piscine de Bethesda. Cet homme dépendait des gens, ça faisait 38 ans. Il dépendait du bon vouloir des gens afin d'avoir une petite pièce pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger, pour pouvoir vivre. Quand Jésus va auprès de lui, parce qu'en fait, quand on lit les Écritures, parfois on n'imagine pas le contexte dans lequel les choses se font. Quand Jésus va auprès de cet homme et qui lui pose la question, mais pourquoi tu ne te vas pas dans l'eau ? Ben, il dit, j'ai pas le temps. Il était handicapé, ben, il ne pouvait pas, le temps qu'il se bouge, qu'il rampe par terre pour arriver dans l'eau, quand un ange venait faire bouger l'eau, il était trop tard, quelqu'un d'autre était allé. Et en fait, toute sa vie a changé à partir du moment où il a accepté que Jésus le guérisse. Pourquoi ? Parce qu'il n'allait plus dépendre des autres. Il allait devoir commencer à se prendre en charge tout seul. Tout seul ou avec l'aide de personne, mais je veux dire, il allait devoir se prendre en charge. Et c'est un peu notre vie. Quand nous sommes enfants, nous dépendons de nos parents. À l'adolescence, il y a parfois des couacs parce que la personne cherche son identité. Et puis elle veut être autonome. Elle veut pouvoir vivre les choses par elle-même. Donc elle ne veut plus dépendre. Et quand on est adulte, on commence à s'occuper des autres. Et c'était un peu l'histoire de cet homme. C'était fini de faire la manche pour récolter de l'argent. Il allait devoir travailler. Ça a dû chambouler sa vie. Peut-être qu'on ne le comprend pas ou qu'on ne l'imagine pas. Ou on peut se dire, oui, je pense que... Mais en fait, on n'a pas tous les éléments. Alors, est-ce que la parole de Dieu, à votre avis, est ringarde ? Alors, il y en a qui vont dire, c'est quoi ringarde ? Définition de ringard, c'est démodé, médiocre, de mauvais goût. Au milieu de nous, j'espère que vous direz tous non. Mais il y a des gens qui disent que la parole de Dieu est ringarde. Non, mais c'est un livre qui date. Mais la parole de Dieu, elle est encore, comme elle est vivante, elle est encore d'actualité pour chacun d'entre nous. Et pour chaque créature sur cette terre. Pensez-vous que Dieu soit amnésique ? Dois-je lui rappeler les promesses qu'il m'a données ? Dois-je ? Je ne sais pas, mais tu peux. Tu peux dire à Dieu, souviens-toi, Seigneur, des promesses que tu m'as données. Il y a des exemples dans la Bible. Donc on peut. Est-ce que si je lui rappelle ses promesses à mon égard tous les jours, il m'exaucera plus vite ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Comme il n'est pas amnésique, il sait bien les promesses qu'il nous a données. Et il va les accomplir. Et il va les accomplir toujours. Toujours. Alors qu'en est-il des promesses que Dieu t'a données ? Veux-tu les recevoir ou te les laisser voler ? Comment faire pour recevoir les promesses de Dieu dans notre vie ? Obéir ? Faire confiance et être fidèle. Et ça va s'accomplir. Et je redis, parce que je pense qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, donc les prophéties qu'on m'a données, on ne parle pas de ça. » Je vous parle des promesses de la parole de Dieu que Dieu vous a données, que Dieu t'a données, personnellement. Par exemple, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Oui, mais je ne crois pas que je sois digne parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Non, la parole de Dieu, c'est la vérité. Fais confiance à Dieu et tu verras ce que Dieu dit, il l'accomplit. Donc le titre de mon message que je n'ai pas mis au début, je l'ai mis à la fin. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais comment aussi tu peux être sûr des promesses de Dieu si tu n'as pas cette intimité avec Dieu où tu sais ce que Dieu te dit va s'accomplir ? Parce que c'est comme dans une famille. Les enfants ne doutent pas que leurs parents vont prendre soin de lui. S'ils doutent, c'est que peut-être il y a eu des situations difficiles, compliquées, douloureuses. Mais de manière générale, normalement, les parents sont là pour s'occuper de leurs enfants. Pas faire tous leurs caprices, on est d'accord. Mais s'occuper d'eux. Et Dieu, c'est un bon père. Dieu veut nous bénir, tous autant que nous sommes. Et les promesses que tu as reçues de la parole de Dieu, de la part de Dieu au travers de sa parole, reçois-la. Si tu l'as oublié, si tu n'y as pas cru, demande pardon à Dieu et renouvelle ton engagement en disant « Seigneur, je veux recevoir tes promesses me concernant dans ce que tu m'as dit au niveau de ta parole. » Voilà. Je vais prier que le Saint-Esprit fasse cette œuvre en vous où la parole de Dieu va être de plus en plus présente et où les promesses de Dieu qu'il vous a données seront de plus en plus présentes dans vos vies. Seigneur, je te prie parce que je sais que tu entends les prières et je sais que tu mets les choses en route. Il est écrit dans ta parole que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Et donc je crois, Seigneur, que ce matin, ce qui a été partagé ne va pas revenir à toi sans que tu auras produit l'effet dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma vie. Parce que ton désir, c'est de faire du bien à tes enfants, de faire du bien à ton peuple, de nous faire grandir en maturité, en discipulat, de manière à marcher avec toi de plus en plus dans cette foi et dans cette force que tu nous donnes. Parce que tout est grâce et tout vient de toi. Alors merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire aujourd'hui, durant cet après-midi, dans les jours qui viennent de cette semaine, où tu vas bénir mes frères et sœurs et moi-même, et où tu vas te glorifier dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis par la parole de Dieu.